Bienvenue dans les chroniques de l'étrange.
Tout ce qui sera dit dans cette émission n'est malheureusement que la triste réalité. Une réalité sanglante, terrible, qui a plongé dans l'horreur les habitants de la région du Gévaudan pendant près de 3 années. C'est le récit de tueries atroces, survenues il y a 250 ans. Mesdames et messieurs, oubliez la légende et bienvenue dans l'épisode numéro 2 des Chroniques de l'étrange. Aujourd'hui, nous allons parler de la bête du Gévaudan.
C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres.
Miséricorde !
Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout.
À quoi ressemblait la région appelée autrefois Gévaudan ? Qui étaient ses habitants ? Comment vivaient-ils ? Et dans quel environnement ? Remontons le cours du temps jusqu'au XVIIIe siècle, précisément en 1764, l'année où l'on a commencé à répertorier les premières tueries. Tout d'abord, le Gévaudan est situé au sud-est du Massif central. À cette époque, c'est le roi Louis XV qui est au pouvoir depuis 1715. Il faut imaginer une terre à la topographie très accidentée. Il y a des monts et des forêts qui couvrent le territoire. On y trouve de profondes ravines où y coulent des rivières et de longs plateaux à l'herbe rase qui surplombent ces vallées escarpées. Bref, c'est en tout cas l'endroit idéal pour qu'une bête puisse se cacher et échapper à ses poursuivants. Les habitants sont pour la plupart des paysans, assez pauvres, qui font commerce du bois et du textile, et qui pratiquent un peu de culture et beaucoup d'élevage. Ce sont souvent les enfants qui vont garder les troupeaux dans les montagnes. D'ailleurs, ils feront partie des proies favorites de la bête. Les villages sont assez épars, on y trouve parfois de simples hameaux assez miséreux. C'est dans ces contrées que durant le mois de juin 1764, une jeune femme se fait attaquer par une bête mystérieuse.
La pauvre petite a été attaquée par un loup. C'est Jean qui l'a sauvée. Après, sa famille nous l'a laissée.
J'avais trop peur de sortir les bêtes.
Ça y est, pour la première fois, le nom de la bête est évoqué. La jeune femme s'en tira avec quelques blessures sans gravité. Ce ne sera pas le cas pour les 2 prochaines victimes de cet été 1764. Le 8 août, une jeune fille de 15 ans qui gardait des moutons est retrouvée égorgée. 2 semaines après, c'est un garçon que l'on retrouve dévoré dans un pâturage. Les paysans commencent à s'inquiéter. C'est assez inhabituel qu'un loup s'attaque ainsi aux hommes. C'est un animal d'ordinaire assez craintif qu'un simple jet de pierre suffit généralement à chasser. La bête dévore 2 autres personnes début septembre. Un garçon de 15 ans et une femme de 36. Cette dernière a été tuée à quelques mètres de sa maison, alors qu'elle travaillait dans son potager. La pauvre est retrouvée égorgée. Étrange, la bête ose s'approcher des habitations. La peur chez les paysans augmente d'un cran. Pour autant, la populace ne reste pas inactive. On organise des battues dans les bois, mais la bête semble insaisissable. Alors, l'intendant du Languedoc ordonne au capitaine Duhamel, avec un détachement de 57 hommes, de mettre un terme aux méfaits commis en Gévaudan. S'ensuivent de longues chasses interminables et infructueuses. Les hommes de Duhamel travaillent sans relâche, aidés par les paysans. On bat la campagne, on bat les forêts, mais la bête n'est jamais saisie. Pire, elle poursuit ses méfaits. Entre l'arrivée de Duhamel le 15 septembre 1764 et la fin de cette même année, ce sont 21 personnes qui sont victimes de la bête. Pour les rescapés, c'est souvent le même discours concernant la description de l'animal.
La bête a la tête large, très grosse comme celle d'un veau et terminée par un museau de lévrier. Le poil est rougeâtre, rayé de noir sur le dos, la queue extrêmement noire et touffue. Elle court en bondissant, les oreilles droites. Quand elle chasse, elle se couche ventre à terre et rampe. Quand elle est à la distance qui lui convient, elle s'élance sur sa proie et l'expédition est faite en un clin d'œil. Elle est friante de sang, des mamelles et de la tête. Lèche la terre s'il y a du sang.
Le dernier jour de cette funeste année 1764, le mandement de l'évêque de Mende restera profondément ancré dans le cœur des paysans. Comme si leur malheur ne suffisait pas, l'évêque leur inflige aussi le poids de la culpabilité.
Vous tous, qui avez la douleur de voir vos enfants égorgés par ce monstre, êtes-vous bien sûr de ne pas avoir mérité ce châtiment ? Au lieu d'apprendre à vos enfants à rendre grâce à Dieu chaque jour et à considérer la pauvreté comme un trésor, vous leur enseignez la convoitise, l'orgueil, le mépris. Par votre faute, ils ne connaissent plus la pudeur ni la modestie. Faut-il alors s'étonner que Dieu nous mette ainsi à l'épreuve ?
Et Duhamel finit par tomber en disgrâce. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il ait manqué de volonté, car il a sans relâche traqué la bête et organisé des battues gigantesques où 40 000 paysans et plusieurs milliers de chasseurs se lancent à la poursuite de la bête. On l'aperçoit, on la tire, mais la bête se relève et reprend sa course. Mais quel est donc cet animal qui semble même résister aux balles ? L'histoire de la bête anthropophage du Gévaudan est arrivée jusqu'aux oreilles du roi Louis XV. La presse s'est emparée de l'affaire depuis des mois. Mais l'étendue de l'affaire et les revers du capitaine Duhamel obligent le roi à agir. On décide alors d'envoyer Jean d'Enval, le meilleur chasseur de loups de tout le pays. Lui au moins pourra libérer les paysans de ce gros loup qui les terrasse chaque jour. Entre-temps, la bête n'a pas cessé ses tueries. À l'arrivée du chasseur début mars, 32 attaques sont recensées. 15 personnes y ont laissé la vie dans des conditions atroces. Le 22 janvier, on a trouvé le corps de Jeanne Tanavel, à moitié enterrée, les vêtements en lambeaux, la poitrine mangée, la tête arrachée et récupérée 200 mètres plus loin. Les premières chasses de Denval sont infructueuses. Il est inquiet car en tant que grand spécialiste des loups, il sent bien qu'il a affaire à un tout autre genre d'animal. Et une fois de plus, la bête poursuit ses meurtres et semble se jouer de ses agresseurs. Un jour, elle attaque dans un village. Le lendemain, on la retrouve 30 km plus loin en train de dévorer un enfant. Le nombre de victimes devient vertigineux. Denval perd confiance. La frustration est grande et petit à petit, son parcours infructueux devient le même que son prédécesseur. Et la bête continue son carnage. Cette fois, la malbête, comme les paysans l'appellent, fait les gros titres à l'étranger. On se moque de l'incapacité du roi à se débarrasser d'un vulgaire loup. Alors Louis XV emploie les grands moyens et décide d'envoyer en Gévaudan son porte-arquebuse, François-Antoine. Antoine arrive en Gévaudan fin juillet. Il est confiant. Il ne croit pas à la bête et pense chasser un gros loup. Le roi, d'ailleurs, n'acceptera pas qu'il échoue dans sa tâche, car la France ne veut plus être la risée des pays voisins. À la fin du mois de septembre, François-Antoine se dirige vers le bois de Chaze, où l'on affirme avoir aperçu un énorme loup. Arrivé sur place, il est confronté à un animal des plus imposants. Écoutons un extrait de son procès-verbal de l'événement.
Étant placé à un des trois, il me serait venu par un sentier. À la distance de 50 pas, ce grand loup me présentant le côté droit et tournant la tête pour me regarder. Sur le champ, je lui ai tiré un coup de ma canardière. Mais le dit loup est tombé aussitôt, ayant reçu la balle dans l'œil droit.
la taille du loup est impressionnante. Il pourrait bien correspondre à la bête. Certains témoins affirment que c'est bien le monstre qui les a attaqués. Est-ce que c'est enfin le coup de grâce ? François-Antoine, lui en tout cas, en est persuadé. Il fait envoyer la dépouille du loup à Versailles où elle sera empaillée. C'est aussi la victoire du roi face à la bête. Ça y est, les habitants sont enfin libérés du mal. Ils vont pouvoir reprendre le cours de leur existence. Le calme semble bien être revenu en Gévaudan. Pendant des mois, on ne relate que quelques attaques isolées, très rares, attribuées à des loups ordinaires. On renvoie les enfants garder les troupeaux sans crainte. Jusqu'à ce mois de décembre, où l'on voit réapparaître la bête. Et les attaques reprennent. Le roi, pour ne pas se ridiculiser, ne veut rien savoir des nouvelles tueries. La bête a été tuée par son porte-arquebusier. Il n'enverra donc plus personne pour aider les paysans. Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute, et les descriptions de l'animal l'attestent. La bête est bien vivante, et elle ne compte pas arrêter ses meurtres. Les attaques dureront toute l'année 1766. Étonnamment, on trouve parfois de longues périodes où l'on ne mentionne aucune tuerie. Ce sont tout de même des dizaines de victimes qui sont encore retrouvées dévorées, égorgées, décapitées. L'année 1767 est là, et elle aura aussi son lot de victimes. Au moins 30 personnes attaquées, 17 périront jusqu'à la date officielle de la mort de la bête, le 19 juin 1767. Ce jour-là, Jean Chastel, chasseur réputé du Gévaudan, participe à une battue. L'abbé Pourchier raconte que durant la traque, Chastel lisait des litanies lorsqu'apparaît la bête à quelques pas de lui et s'immobilise. Le chasseur a le temps de fermer son livre, de ranger ses lunettes, d'ajuster son tir et de presser la détente. Son tir fait mouche. La bête est tuée. À partir de ce jour, on ne recensera plus aucune attaque de la bête. Était-ce un loup ? Elle y ressemble, mais possède de nombreuses différences anatomiques, notamment son museau et son pelage qui est roussâtre. Le chirurgien rapporte minutieusement toutes les mesures de l'animal. Il pèse 53 kg, son épine dorsale est de 77 cm et ses crocs atteignent 37 mm. On retrouve les plombs et les traces de coups de lance portés par les habitants sur son corps. Mais la bête, mal empaillée, ne sera pas présentée au roi. Ainsi s'achève le récit de la bête du Gévaudan. Ces trois années de terreur auront profondément marqué le pays. Et aujourd'hui encore, cette histoire continue de nous fasciner d'horreur. Mais quelle était la vraie nature de la bête ? Pourquoi s'en prenait-elle autant aux humains ? Pourquoi un comportement si différent de tous les animaux jusqu'alors rencontrés ? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans la deuxième partie de cette chronique de l'étrange. Ce qui m'a passionné dans cette trame terrible, c'est que justement le mystère reste encore entier. Malgré les témoignages des habitants de l'époque, des documents analysés dans les archives du diocèse, les spécialistes n'ont jamais réussi à se mettre communément d'accord sur ce qu'était la bête, d'où elle venait et pourquoi elle avait fait autant de victimes. Nous allons à présent analyser quelques théories sur le mystère de la bête. Tout d'abord, le bilan du nombre de victimes est sujet à controverse. Si l'on se réfère seulement aux sources officielles, c'est-à-dire les actes de décès, on dénombre 203 attaques, dont 90 ayant entraîné la mort. Cependant, certains auteurs nuancent ces chiffres et affirment qu'ils ne reflètent pas la réalité. Ces fameuses périodes creuses où justement aucune attaque n'est recensée officiellement. Elles ne signifient pas pour autant que la bête n'est jamais attaquée. Ces périodes coïncident étrangement avec la mort du gros loup tué par François-Antoine qui pensait détenir la bête. Il se pourrait bien que des victimes aient été dévorées par la vraie bête juste après, mais que les autorités, pour ne pas discréditer le roi et son porte-arquebusier, n'ait pas attribué les attaques à la bête. De manière officieuse, certains estiment alors le nombre d'attaques à plus de 300. Intéressons-nous à la nature de la bête. Là aussi, de nombreuses théories s'affrontent. Tout d'abord, ceux qui croient que la bête était un, voire plusieurs loups. Certains défendent la théorie d'une portée de loups anthropophages. Il aurait alors suffi que des louveteaux aient goûté à la chair humaine pour en faire des loups mangeurs d'hommes. Pour autant, a-t-on jamais vu un loup, même affamé, se jeter sans hésiter sur les hommes alors qu'il eût été si facile d'attraper un agneau? Le zoologiste Michel Louis, spécialiste du comportement du loup, affirme que celui-ci reste un animal craintif qui n'attaque qu'en cas d'extrême nécessité. D'ailleurs, depuis des siècles, les hommes cohabitent avec le loup. Il n'était jamais venu à l'esprit des habitants de l'époque d'envoyer leurs enfants garder des troupeaux armés jusqu'aux dents. C'est bien la preuve que l'on ne redoutait pas tant que ça cet animal. Et puis pourquoi les paysans aurait alors donné rapidement le nom de bête à ce soi-disant loup? Sûrement parce que les témoins avaient bien observé qu'il n'avait pas affaire à un loup. Pouvons-nous mettre en doute la parole des habitants? Je pense qu'ils avaient suffisamment affaire à cet animal pour ne pas le confondre avec un autre. Mais alors, si ce n'est pas un loup, de quelle nature est la bête? Michel Louis émet une hypothèse intéressante. Et si cet animal était en fait un hybride, c'est-à-dire un croisement entre un chien et un loup? Tout d'abord, la description de l'animal lui rappelle celui des chiens de type berger, notamment à cause de son poids, de sa couleur et de ses pattes relativement grosses. Mais elle rappelle tout autant le loup par sa queue touffue, son museau allongé, son allure générale et son aptitude à parcourir rapidement de longues distances. Son comportement semble aussi appartenir aux deux espèces. Parfois, elle attaque comme un loup de manière furtive et emporte ses victimes après une longue période d'observation. Mais elle se comporte aussi comme un chien en attaquant à découvert et en adoptant un caractère peu craintif, voire presque familier avec certains témoins. Rappelons qu'elle n'hésitait pas à rentrer dans les villages et qu'elle s'est étrangement immobilisée avant que Jean Chastel ne la batte. D'autres questions taraudent encore notre esprit. Comment se fait-il que la bête ait pu échapper aux battues durant 3 ans et qu'elle n'attaque que les hommes? Rappelons que les plus grandes chasses ont compté jusqu'à 40 000 hommes sur le terrain. Or, la bête n'a jamais été attrapée. C'est là que la théorie de l'association entre l'homme et l'animal apparaît. Pour que la bête puisse échapper à ses agresseurs si aisément, il aurait fallu qu'elle soit aidée. Si c'est un homme qui dirigeait l'animal, il suffisait alors d'anticiper les battues et de cacher l'animal au bon moment. On doit donc supposer qu'il y a eu un dressage, très certainement dans le but d'attaquer les humains. De plus, la décapitation de certaines victimes ne serait pas le propre des animaux. Un homme se serait alors rendu sur place pour couper la tête des victimes de la bête. Mais est-ce possible qu'une personne ait pu secrètement diriger l'animal sans qu'aucun témoin ne la repère ? S'il y a eu un dressage, alors le dresseur a sûrement perdu contact avec l'animal. Vient aussi l'histoire des balles qui ne semblent pas atteindre la bête. À plusieurs reprises, on a tiré sur la bête, mais elle s'est toujours relevée rapidement en prenant la fuite. Certains ont émis l'idée d'une cuirasse en peau de sanglier, ce qui expliquerait l'étrange collerette noire le long de son dos. Et puis si dresseur il y a, elle aurait pu se faire plus facilement soigner après les nombreuses blessures reçues. Mais qui ? Qui serait assez cruel pour jeter une bête féroce sur la population ? Jean Chastel, que l'on surnomme à l'époque le fils de la sorcière ? Étrange qu'il ait pu tuer la bête si facilement. Ou encore le comte de Morangiès, à la réputation si mauvaise et aux mœurs plus que discutables ? Cet homme a pourtant participé courageusement à de nombreuses battues et n'a jamais abandonné les paysans. Une fois encore, par manque de preuves, on ne peut rien affirmer. Et je passe ici bien sûr les théories les plus farfelues et depuis longtemps obsolètes qui affirment que la bête aurait pu être un fou sadique revêtu d'une peau de bête. Comment aurait-il pu distancer ses agresseurs, se déplacer aussi rapidement, transporter dans sa gueule des enfants, et surtout, comment son déguisement aurait pu tromper des dizaines de paysans qui côtoyaient les bêtes sauvages tous les jours. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Le mystère de la bête reste entier. Mais depuis 2016, on peut se faire une idée de l'anatomie de la bête. Sous la direction de Jean-Claude Bourret, une reproduction incroyablement fidèle de la bête a été fabriquée grandeur nature à partir des mensurations précises rapportées par le médecin légiste de l'époque. Vous trouverez facilement des photos de la reproduction sur Internet. Pour Bourret, l'animal est un croisement entre un loup et un chien de combat descendant des légions romaines. Mais chacun a sa propre théorie sur la chose. J'espère que vous aurez appris énormément de choses sur la bête et que cette émission vous donnera envie d'en savoir encore plus. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée, un bon soir ou une bonne nuit sur Radio PK. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine chronique de l'étrange qui sera consacrée au naufrage de l'USS Indianapolis. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette incroyable histoire, alors raison de plus pour que l'on se retrouve sur le prochain épisode. On se quitte sur le titre de David Guetta, interprété par Sia, She Wolf. A shot in the dark.